écoutez France Culture, il est 6h30. Le journal présenté par Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Une baisse historique, jamais le chômage n'avait autant reculé depuis 20 ans. Pôle emploi a publié ses chiffres du mois de septembre hier soir. Plus de 66 000 inscrits de moins par rapport au mois précédent. Une bonne nouvelle économique et sociale, mais aussi politique pour François Hollande qui conditionne une nouvelle candidature à cette baisse du chômage. Le chef de l'État n'a d'ailleurs pas tardé à réagir, y voyant le fruit de sa politique. Mais une telle diminution des demandeurs d'emploi suscite également des doutes. On s'interroge aujourd'hui sur la méthode de calcul de Pôle emploi, sur les différentes catégories de chômeurs. On compare ces chiffres à ceux de l'INSEE. Écoutez Philippe Dallier, le sénateur LR de Seine-Saint-Denis.
D'abord, l'INSEE ne produit un chiffre que tous les 3 mois. Et ce chiffre, lui, est issu d'un très gros sondage, puisqu'on interroge entre 90 000 et 100 000 personnes. Et à ces personnes, on leur pose 3 questions bien précises. Est-ce que vous avez travaillé dans la période de référence ? Si la réponse est non, première bonne réponse entre guillemets, est-ce que vous êtes immédiatement disponible pour retrouver un emploi et est-ce que vous êtes en recherche active d'emploi ? Si la personne répond à ces 3 questions, la personne est alors comptabilisée effectivement comme étant au chômage et en recherche d'emploi. Et là, le chiffre fourni par l'INSEE tous les 3 mois, il est autour de 2 800 000 personnes. Vous voyez qu'on est très loin des 3 500 000 personnes de la catégorie A. Donc on a là 2 définitions du chômage. Celle fournie par l'INSEE est une donnée qui nous permet de nous comparer aux autres pays européens parce que avec ce mode de calcul du nombre de chômeurs, tout le monde le fait de la même manière. Et une des questions qui avait été posée par la commission d'enquête, c'est que depuis un certain nombre d'années, le chiffre donné par l'INSEE et celui donné par Pôle emploi en catégorie A, l'écart entre les deux s'est creusé de manière très importante. Donc ça aussi, ça mérite effectivement de s'y intéresser pour comprendre le marché du travail dans notre pays.
Le sénateur de droite Philippe Dallier répondait à Stanislas Vazak. Eux éprouvent un réel malaise au travail. Les policiers, après 10 jours de manifestation, sont reçus aujourd'hui par François Hollande. Enfin, ce sont les syndicats qui sont invités à l'Élysée. Des syndicats aujourd'hui dépassés par la base. Hier, les organisations officielles ont tenté de reprendre la main sur ce mouvement de colère avec des rassemblements devant les tribunaux partout en France. Des rassemblements bien moins fournis que les défilés nocturnes, hors de tout cadre syndical auquel on assiste depuis la semaine dernière. Une rupture entre les agents et leurs syndicats. Pourtant, Céline Berton, la secrétaire générale du syndicat des commissaires de police, veut croire qu'ils défendent les mêmes revendications.
Même si sur les modalités d'action, on a quelques questions et quelques réserves, sur les motifs, aucun syndicat n'est en désaccord. Je pense qu'il faut qu'on démontre que nous n'avons pas œuvré hors sol depuis des mois et des années. Nous avons agi selon les mêmes convictions que celles qui les animent, la volonté de pouvoir protéger et servir. Il faut qu'on fasse manifestement cette démonstration-là. On a peut-être manqué de pédagogie, on a assurément manqué d'efficacité, mais une fois encore, les décideurs, malheureusement, ce ne sont pas nous. Les décideurs, ils sont en face. Il faut que les décideurs comprennent que nous n'avons pas fait nos danseuses depuis 18 mois, mais que nous avons porté la parole des collègues de terrain. Et en tout cas, cette logique de cassure entre la hiérarchie et le terrain, je pense que c'est... Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je pense que c'est aujourd'hui un marronnier utilisé par certains qui n'ont pas de bilan. Je pense qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont un peu perdus dans leur stratégie syndicale. D'ailleurs, en ont-ils une ? Je me pose la question. On peut penser qu'on essaye de canaliser, on a parlé de syndicats débordés, on a parlé de syndicats à côté de la plaque. Relisons ce qui a été écrit. Et à partir du moment où on ne nous a pas entendus, on ne nous a pas donné les moyens d'être efficaces. C'est aussi pour ça qu'on aboutit à ce résultat aujourd'hui.
La secrétaire générale du syndicat des commissaires de police, Céline Berton, au micro de Violette Voldoir. Voilà un autre conflit social qui s'enlise tout autant depuis 10 jours. Les journalistes d'ITélé ont reconduit la grève hier. Ils protestent contre l'émission de Jean-Marc Morandini, imposée à l'antenne par le patron, Vincent Bolloré, malgré la mise en examen pour corruption de mineurs de l'animateur. Et plus largement, ils protestent contre la ligne éditoriale menacée par l'industriel. Un conflit bloqué, d'où la question maintenant de l'intervention du ministère de tutelle, Catherine Pétillon.
Une réunion entre la rédaction et la direction devrait se tenir en fin de matinée après 9 jours de grève et un dialogue toujours au point mort. Si bien que certains, comme le sénateur PS David Assouline, ont appelé à la nomination d'un médiateur, comme cela avait été le cas lors de la grève à Radio France. Mais le ministère de la Culture estime que son champ d'intervention n'est pas le même que pour l'audiovisuel public. Un conflit qui concerne un média, une entreprise privée, le tout en période préélectorale, voilà qui incite le gouvernement à marcher sur des œufs. Le ministère de la Culture a lui choisi de ne pas aller plus loin que le soutien formel qu'il a exprimé. Sur les aspects éditoriaux du conflit, il renvoie au CSA. Ce dernier a d'ailleurs fait l'objet hier d'une saisine officielle de la part des journalistes et des syndicats d'ITélé. Ils alertent sur les violations de la convention signée avec le régulateur et qui confère à la chaîne d'information continue un certain nombre d'obligations. Parmi les points cités, les interventions de Vincent Bolloré dans les programmes ou encore la nécessité d'éviter toute confusion entre information et divertissement. Le CSA a par ailleurs reçu des signalements de téléspectateurs concernant l'émission de Jean-Marc Morandini. Tous ces points seront examinés dans les jours à venir. Sur le terrain social, le dossier est désormais au ministère du Travail qui se dit disposé à entendre les représentants des salariés. L'inspection du travail s'est par ailleurs rendue hier à la rédaction d'ITD.
6h36 sur France Culture, la suite du journal avec vous Amélie Perrier. À l'étranger, le ton monte au Venezuela entre le pouvoir chaviste et l'opposition de centre droit.
Oui, l'opposition appelle à manifester aujourd'hui pour réclamer le départ du président Nicolas Maduro. Hier, le Parlement qu'elle domine a voté l'ouverture d'un procès en destitution. Réaction à la suspension par le régime du processus pour convoquer un référendum révocatoire. Le Venezuela est aujourd'hui à bout. Une catastrophe économique. La dépendance au pétrole lui coûte très cher depuis la chute du prix de l'or noir. La population doit supporter des pénuries en nourriture et en médicaments. Des conséquences financières importantes, on parle cette fois du Brexit. Et si la procédure de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est à peine lancée, la facture s'élève déjà à 1,8 milliard d'euros. Chiffre communiqué par la Commission hier, 1,8 milliard d'euros. C'est en fait la baisse que prévoit Bruxelles pour la contribution britannique à l'Europe l'an prochain. Un manque à gagner dû à la dévaluation de la livre sterling depuis le référendum du mois de mai. La Française Isabelle Thomas est eurodéputée socialiste et membre de la commission des budgets.
Le Brexit, c'était déjà pas une très bonne nouvelle, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en plus, on vient de découvrir dans les documents de la Commission européenne que pour l'année 2017, eh bien, nous connaîtrons un manque à gagner de 1,8 milliard d'euros. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après le vote du référendum en juin, progressivement, la livre sterling s'est dépréciée. Je dirais même qu'elle a dégringolé ces derniers mois. Et que comme le Royaume-Uni paye sa contribution au budget de l'Union en livre sterling, eh bien, l'Union européenne se retrouve avec 1,8 milliard en moins dans son budget. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Union européenne parce qu'on a déjà des grosses difficultés budgétaires. Et évidemment, 1,8 milliard, ça se trouve pas sur les pieds d'un cheval, comme on dit. D'autant que, par contre, de l'autre côté, les programmes européens, et heureusement pour les étudiants en Erasmus britanniques, eux, se payent en euros, évidemment. Je m'interroge sur la question de savoir si aujourd'hui le Royaume-Uni est un contributeur net.
L'eurodéputée socialiste Isabelle Thomas était avec Anya Vogel à Strasbourg. Le temps de ce mercredi, toujours gris dans le nord malgré quelques éclaircies et perturbé dans le sud-est. Les températures au petit matin, 5 à 12 degrés. Cet après-midi, on attend 12 à Arras, 16 degrés à Paris, 17 à Lorient, 18 à Grenoble, 19 à Bayonne et 23 pour Marseille.